VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guirec et John Lyndon en votre compagnie. Bienvenue à cette édition du mercredi 13 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Violence au Congo-Brazzaville, les bombardements sur Soumana ont repris ce matin.
Par ailleurs, l'opposante Claudine Mounari a été placée en résidence surveillée.
République centrafricaine, le nouveau gouvernement a commencé à prendre ses fonctions.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Bonsoir à tous. Violence au Congo-Brazzaville. Les bombardements sur Soumana, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, ont repris ce matin. Le site du pasteur Ntoumi a été attaqué et incendié. De Brazzaville, notre correspondant Gwela Ngoussou.
Tout est parti très vite ce matin à Soumana, lorsqu'un groupe de militaires est allé fouiller le site du pasteur Ntoumi. D'après le porte-parole de l'ex-chef ninja, les soldats saccageaient tous les biens lorsqu'ils en ont été empêchés par les ninjas. Une altercation violente qui a mis en déroute les forces de l'ordre, perdant leur véhicule BJ, brûlé par les ninjas. Les hélicoptères sont appelés à la rescousse et pilonnent tout le site du pasteur Ntoumi à Soumana, qui finit par prendre feu. Certaines cases de paysans auraient également été incendiées. La circulation entre Brazzaville et Kinkana via Soumana a été coupée et le contrôle à la barrière policière de Ngangalingolo, l'entrée sud de Brazzaville, renforcée. À Kinkana, le chef-lieu du département du Poul, d'où on pouvait écouter dans l'avant-midi le bruit assourdissant des bombardements, la vie a été au ralenti ce mercredi. Jusqu'à ce soir, aucun bilan de ces affrontements n'est encore disponible. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Congo-Brazzaville toujours, le haut commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme s'inquiète des rapports alarmants sur les opérations dans le Poul. Zeid Raad al-Hussein exhorte le gouvernement à garantir l'accès au Poul pour les acteurs humanitaires. Cécile Pouilly est porte-parole du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Notre préoccupation, c'est tout d'abord un manque d'accès. Alors on sait qu'il y a des opérations de sécurité qui sont menées à l'heure actuelle dans ce département du Poul et la situation est vraiment opaque. Nous avons reçu diverses allégations et des rapports assez alarmants qui parlent de personnes qui auraient été tuées, d'arrestations massives, de cas de torture en détention et d'un déplacement assez large de personnes dans cette région. Ce qui nous inquiète, c'est bien sûr ces allégations de violation des droits de l'homme et effectivement, on aimerait bien savoir aussi comment les forces de sécurité mènent ces opérations. Nous avons d'ailleurs rappelé aujourd'hui que tout incident qui impliquerait un emploi de la force par ces forces de sécurité, et notamment s'il y a des morts, devrait faire l'objet d'une enquête approfondie, rapide et aussi impartiale. Et l'autre élément du fait de ces allégations d'arrestation massive et de cas de torture en détention, c'est que nous demandons à ce que toute personne arrêtée et détenue soit bien sûr bien traitée, qu'il n'y ait aucun mauvais traitement à son encontre et que les personnes soient tout simplement ou inculpées s'il y a des charges à leur encontre ou qu'elles soient relâchées rapidement.
Voilà, et toujours concernant le Congo-Brazzaville, l'opposante Claudine Mounari a été placée en résidence surveillée et nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
République centrafricaine, le nouveau gouvernement a commencé à prendre ses fonctions ce matin à Bangui. On fait le point avec Freeman Sipila.
Plusieurs ministres ont été officiellement installés à la tête de leur département par des inspecteurs d'État. Le nouveau gouvernement entend rompre très rapidement avec les vieilles habitudes afin de passer à l'action. Une nouvelle équipe dit de technocrates, d'hommes intègres attendus au pied du mur pour faire face aux nombreux défis de reconstruction du pays après 3 années de chaos. À Bangui, la configuration de ce nouveau gouvernement est favorablement accueillie par presque toutes les couches sociopolitiques du pays. Des indiscrétions annoncent que le premier conseil des ministres de Faustin Archange Touadéra avec la nouvelle équipe pourrait se tenir ce jeudi au siège de la présidence centrafricaine. Le nouveau gouvernement centrafricain a été dévoilé lundi, 9 jours après la nomination du premier ministre Simplice Mathieu Sarrandi. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, procès des quatre leaders de la société civile. Le délibéré est prévu pour demain. L'ambassade des États-Unis au Tchad se dit préoccupée par ces détentions et appelle à la libération de ces figures de la société civile qui, dit-elle, avaient été arrêtées pour avoir tenté d'exercer leurs droits constitutionnels, soulignant que les communications fiables sont nécessaires au développement politique, social et économique d'un pays. L'ambassade des États-Unis au Tchad a appelé à ce que toutes les technologies de communication soient rapidement restaurées, une allusion à l'interruption des services Internet et SMS dans le pays en rapport avec l'élection présidentielle.
Lutte contre le djihadisme au Mali, l'armée a repoussé une attaque la nuit passée à Boni, dans le centre du pays. Les assaillants sont des islamistes présumés du Front de libération du Massina. L'un d'eux a été tué et 5 autres ont été arrêtés. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources militaires et de sécurité.
Affrontement à propos des droits de pâturage dans l'est du Nigeria. Des bergers peuls sont soupçonnés d'avoir tué au moins 15 villageois et d'avoir brûlé leur maison dans l'état de Taraba. Jacques Aristide.
L'information a été communiquée par la police nigériane aujourd'hui, mais l'attaque elle-même a été perpétrée dimanche lorsque des éleveurs peuls ont pris d'assaut les villages de Dori et Mesuma, régis par le gouvernement de Gachaka. 8 personnes ont été tuées à Dori et 7 à Mesuma, d'après le porte-parole de la police, Kwaji Joseph, qui indique que 2 personnes en lien avec les attaques ont été arrêtées par la police, déployées dans la région pour contenir les violences. Le calme est désormais revenu dans les 2 villages, dit-il. L'AFP rapporte que les médias locaux ont de leur côté dressé un bilan de 44 morts et de dizaines de maisons rasées. Depuis de nombreuses années, des conflits sur des droits de pâturage opposent les éleveurs peuls, nomades et musulmans, et les cultivateurs chrétiens sédentaires. Des affrontements sont récurrents et ont fait récemment des centaines de morts dans la région d'Agatou, dans l'état du Bénin.
Le président du Malawi a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans le pays à cause de la grave sécheresse qui frappe l'Afrique australe. Idriss Fall.
Le président Peter Mutharika a déclaré le Malawi en état de catastrophe naturelle. Le pays fait face à la pire sécheresse depuis 10 ans. 23 sur 28 districts sont sévèrement touchés et le PAM vient déjà en aide à 3 millions de Malawites. Le Mozambique voisin est en alerte rouge et va débloquer 10 millions de dollars. Le nombre de personnes menacées est passé de 380 000 en janvier à près de 1,5 million. 7 provinces sur 11 sont concernées et dans certains cas, plus de 90% des récoltes ont été détruites. Le Zimbabwe et la Zambie souffrent également de pénurie de vivres. L'Afrique du Sud, principal exportateur de céréales pour ses voisins, subit sa pire sécheresse depuis plus d'un siècle et va devoir importer 6 millions de tonnes de maïs, soit la moitié de sa récolte habituelle. Le phénomène El Niño, qui réapparaît tous les 5 à 7 ans, cause à la fois des sécheresses dans certaines zones et de graves inondations dans d'autres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, un officier de l'armée a été tué aujourd'hui par des tirs de la rébellion chiite où de nouveaux combats au Yémen, où de nouveaux combats ont fait plusieurs morts au troisième jour d'une trêve dans cette guerre qui dure depuis plus d'un an. Salwa Jafari.
Une trêve fragile, 3 jours à peine après l'accord de cessez-le-feu. Houthis et forces loyalistes continuent de s'entretuer dans plusieurs régions du pays. Un sniper du mouvement rebelle a touché mortellement le général Saïd al-Houri, commandant des forces loyalistes dans la région de Nahm, au nord-est de la capitale Sana'a. Les rebelles pro-iraniens ont également bombardé au mortier la même région, blessant 6 soldats de l'armée du président Hadi. Dans la province de Marib, à l'est de la capitale, 2 combattants pro-Hadi ont été tués, 7 blessés dans des affrontements sporadiques avec les rebelles aux premières heures de la journée, selon un commandant loyaliste. Durant ces accrochages, au moins un rebelle a été tué et plusieurs blessés, capturés par les forces pro-gouvernementales. L'ONU et la coalition militaire arabo-sunnite menée par l'Arabie saoudite ont toutefois minimisé l'impact des violations du cessez-le-feu. Depuis l'intervention de la coalition en mars 2015, le conflit au Yémen a fait 6 300 morts, pour moitié des civils et 30 7000 blessés, tandis que plus de 2 millions de Yéménites ont été déplacés et 80% de la population a besoin d'une assistance humanitaire, selon l'ONU.
Les Syriens étaient appelés aux urnes pour des législatives organisées par le régime, mais vilipendées par l'opposition pour ce second scrutin depuis le début de la guerre en 2011. La France qualifie ces élections de simulacres et souligne que le seul scrutin valable sera celui inscrit dans la feuille de route de l'ONU, prévoyant une élection à l'issue d'une période de transition.
En marge de ces élections, les négociations de paix sur la Syrie ont repris à Genève. Ce nouveau round pour parler intersyrien, qui devrait durer une dizaine de jours, a débuté par une rencontre entre l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et une délégation qui rassemble les principaux groupes d'opposants au régime de Damas. La délégation du gouvernement syrien n'arrivera, elle, que jeudi ou vendredi à Genève en raison du scrutin organisé en Syrie.
Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement de pays majoritairement musulmans sont attendus à Istanbul demain pour la 13e conférence annuelle de l'Organisation de la coopération islamique dans un contexte de crise avec la poursuite des conflits en Syrie et au Yémen et une série d'attentats qui ont ensanglanté plusieurs États, dont le pays hôte, la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour difficile mission de rassembler un monde musulman profondément divisé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'économie avec Eric Manirakiza.
L'Afrique va enregistrer une croissance réduite à 3% en 2016, selon les chiffres du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. La dépréciation du cours des matières premières et la chute du prix du pétrole en sont essentiellement les raisons. Ceci affecte surtout le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux premières économies du continent. Par contre, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie devraient tous afficher des taux de croissance entre 6 et 7%. En 2015, pays émergents et à faibles revenus ont bénéficié des prêts de la Banque mondiale à hauteur de 42,4 milliards de dollars contre 40,8 milliards de dollars en 2014. Les fonds destinés aux seuls pays émergents ont totalisé 23,5 milliards de dollars contre seulement 14 milliards en 2006 avant l'éclatement de la crise financière mondiale. En RDC, une coalition d'organisations de défense de l'environnement exhorte le gouvernement de Kinshasa à ne pas lever son moratoire sur l'attribution des nouvelles licences d'exploitation forestière industrielle. La République démocratique du Congo abrite plus de 60% des forêts denses du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie, avec une biodiversité très riche.
C'était la Minute Éco. Merci Eric.
Musique qui ne trompe pas, c'est l'heure du sport. Nicolas Pineau est dans ce studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John.
Quart de finale, retour de la Champions League en Europe.
Le duel d'attaquants à distance ce soir, Antoine Griezmann passe partout de l'Atlético Madrid, défie Luis Suarez, dynamiteur du FC Barcelone, dans ce quart de finale après la victoire catalane, 2-1 à l'aller. Et dans l'autre rencontre, l'attaquant grec Kostas Mitroglou devra mener la charge du Benfica Lisbonne contre le colosse Bayern de Munich. Après la courte défaite subie à l'aller 1-0 la semaine dernière en Allemagne, les champions du Portugal peuvent encore rêver d'un exploit sur leur pelouse du Estadio da Luz.
Le Real Madrid et Manchester City se sont qualifiés pour les demi-finales hier.
Après sa défaite à l'aller 2-0 à Wolfsburg, le Real a répondu par un cinglant 3-0 hier soir à Santiago Bernabéu, un triplé de l'incontournable Cristiano Ronaldo. Dans l'autre quart de finale, Manchester City s'est qualifié en battant 1-0 le Paris Saint-Germain.
Pas d'Euro 2016 pour Karim Benzema.
Et oui, le joueur du Real Madrid mis en examen dans l'affaire du fameux chantage à la sextape confirme l'info sur son compte Twitter ainsi que la Fédération française de football. Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France, a-t-il tweeté sur son compte. On rappelle que l'Euro aura lieu du 10 juin au 10 juillet en France.
Et pour terminer, les résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Et oui, les Knicks de New York qui ont été battus par les Pacers de l'Indiana 102-90. Miami qui a dominé Détroit 83-99-93. Philadelphie battue par Toronto 98-122. Oklahoma City qui est battue par San Antonio 98-102. Et puis les Clippers de Los Angeles qui dominent Memphis 110-84. On va évidemment en parler, John, hein, de Kobe Bryant, la star hein, des Los Angeles Lakers, puisque ce sera le dernier match ce soir au Staples Center de Kobe Bryant. Pour l'occasion, beaucoup se sont mobilisés, notamment sur les réseaux sociaux. L'équipementier Nike du champion Kobe Bryant qui a lancé un hashtag Mamba Day. On sait que le surnom de Kobe Bryant, c'est Black Mamba. Et donc, on va souhaiter une belle fin de carrière, un très beau dernier match pour Kobe Bryant qui a enchanté tous les fans de basket à travers le monde.
Merci, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ce coup-là n'était pas nécessaire, là.
Morgan Guériac et John Mindon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, John, le Congo-Brazzaville.
Information VOA Afrique. L'opposante congolaise Claudine Mounari a été placée en résidence surveillée dans le cadre du FROCAD. Cette dernière a appelé à marcher vendredi à Brazzaville pour dire non à la violence policière et oui au dialogue politique inclusif. L'opposition congolaise conteste toujours la victoire de Denis Sassou Nguesso qui, après 32 ans au pouvoir, devrait être investi samedi pour un nouveau mandat. Nicolas Pinault a joint Claudine Mounari à son domicile à Brazzaville.
La police s'est pointée chez moi en disant que j'étais en résidence surveillée. J'ai tout ce qui est chez moi, personne ne rentre, personne ne sort, juste un nouvel ordre. Ce rassemblement, évidemment, il fait peur parce que c'est le rassemblement de la vérité. L'idée de ce rassemblement, c'est d'abord de dire qu'un gouvernement ne peut pas avoir comme méthode de gouvernement que la violence. On ne gouverne pas un pays avec le PMACA, avec les chars. On gouverne un pays avec des institutions. On gouverne un pays avec la loi. Au Congo, on gouverne avec l'arme, avec les bombardements. Aujourd'hui, ils sont en train de décimer les populations paisibles du Poum. Ils bombardent tous les jours. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Samedi, il va même faire une prestation de serment sur une victoire volée. Mais c'est l'arme qui parle. Pourquoi?
Claudine Mounari, maintenez-vous l'appel à manifester ce vendredi 15 avril à Brazzaville?
Tout à fait, je maintiens parce que c'est un combat. C'est un combat pour libérer notre peuple, pour nous libérer, pour retrouver le droit à la parole. Donc je ne peux pas annuler, je maintiens. Je maintiens ce que nombreux de nos compatriotes ont décidé d'y aller, ils iront.
Vous parliez de bain de sang tout à l'heure, vous ne craignez pas des violences?
Maintenant que des groupes relayés, qu'il y aura une marche, c'est connu de tout le monde, c'est à la place publique, déjà on verra si les gens peuvent accéder à la place, quel que soit le sort de ce rassemblement, je n'ai pas moi le droit de l'interdire moi toute seule. Vous comprenez la situation? Nous verrons bien sur le terrain ce qui se passe. Et puis bon, c'est vendredi, on a encore 2 jours devant nous.
Que pensez-vous de l'attitude de la communauté internationale concernant ces élections au Congo-Brazzaville?
La communauté internationale, je vous ai déjà dit que le référendum a été soutenu par M. Hollande, alors que tout un peuple avait dit non, nous avons notre constitution, nous allons respecter nos textes. M. Hollande lui a donné l'autorisation. Pendant le référendum, on a tiré à balles réelles dans les rues, dans nos campagnes, sur les populations désarmées. Aujourd'hui, on envoie des expéditions punitives dans le Poule pour massacrer les populations au canon. La communauté internationale est au courant de tout ça. Vous êtes très bien informés là-bas, non? Tout ce que nous avons, c'est « Ah non, c'est déplorable ce qui se passe au Congo ». Mais quand on dit « c'est déplorable ce qui se passe au Congo », des hommes et des femmes et des enfants meurent. La communauté internationale regarde ailleurs.
Quel est votre message pour Denis Sassou Nguesso?
Je dis, monsieur le Président, 32 ans de pouvoir, ça suffit. Et ayez un peu l'amour de votre peuple. Ce peuple, vous le connaissez bien. Ils ne veulent qu'une chose, c'est vivre heureux ensemble. Monsieur le Président, 32 ans, ça suffit. Vous avez beaucoup fait. Il y a des choses que vous avez très bien faites, il y a des choses que vous avez moins bien faites, il y a des choses que vous avez très mal faites, surtout quand vous bombardez sur les populations. Je pense que maintenant, monsieur le Président, il faut partir. Il faut faire ce dernier geste d'amour pour votre pays et laisser ceux qui ont gagné faire le deuxième tour et que d'autres dirigeants prennent la suite. Parce que, monsieur le Président, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
Claudine Mounari, opposante congolaise, jointe à Brazzaville. Retrouvez cette interview et tous les derniers développements au Congo sur notre site internet voafrique.com.
appel d'intellectuels du monde entier en faveur de leurs homologues du Burundi, victimes, selon eux, d'une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur le pays. Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui, il dénonce une pensée unique qui s'installe, refusant le débat et la contradiction, et qui manifeste ce refus avec la plus grande violence. Timothée Donangmaï a joint Marie-Soleil Frère, directrice du Centre de recherche en information et communication de l'Université libre de Bruxelles, une signataire de la lettre collective en faveur des intellectuels burundais.
C'est vrai qu'on a vu petit à petit les collègues qu'on était habitués à entendre commenter l'actualité de leur pays, analyser dans les médias burundais ou dans les médias internationaux. Mais petit à petit, on s'est mis à les entendre moins. Ceux qui sont restés au pays deviennent discrets et ne veulent plus s'exprimer. Ceux qui sont sortis du pays et qui sont aujourd'hui en exil hésitent aussi parfois à prendre la parole parce que si leur famille est restée au pays, ils peuvent craindre pour leur famille, pour leurs proches. Donc on a vu petit à petit que les volontés de s'exprimer s'amenuisaient. On estime que aujourd'hui, par rapport à cette crise, la voix des intellectuels burundais, c'est une voix qui doit être entendue parce qu'ils peuvent apporter quelque chose à la compréhension de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Qui est responsable de cette situation que vous dénoncez aujourd'hui au Burundi ?
Les forces en présence qui font manifestement preuve d'intolérance vis-à-vis de toute grille de lecture de la réalité qui ne soit pas conforme à leur perspective à eux. Donc c'est clair que le pouvoir en place aujourd'hui a eu une attitude extrêmement violente et restrictive par rapport à la liberté d'expression. On l'a vu avec la fermeture des principales radios indépendantes. On a vu aussi que des jeunes étudiants universitaires ont été arrêtés. Certains ont été emprisonnés, certains ont été torturés. Des jeunes qui pourtant n'étaient pas forcément armés, et d'autres qui ont été qualifiés de terroristes. Donc c'est clair qu'il y a une répression qui s'est mise en place et qui ne permet plus aujourd'hui le débat contradictoire.
Alors qu'est-ce que vous attendez comme réponse à votre lettre ?
Alors nous n'attendons pas de réponse. Cette lettre, c'est vrai que ça peut paraître être un acte un peu dérisoire, un peu vain, purement symbolique. On l'a rédigée, je le disais, au mois d'octobre, et la raison pour laquelle on la rend publique seulement maintenant, c'est parce que une des remarques qu'on s'était faites à l'époque, c'est qu'il fallait qu'on trouve nous-mêmes des solutions à proposer à nos collègues, donc des idées concrètes par rapport à ce qui pouvait être fait pour les aider à pouvoir continuer à s'exprimer. Et on n'est pas parvenu à identifier ces idées concrètes. On voulait mettre en place, par exemple, une plateforme qui leur permettent de diffuser des textes et des analyses de manière anonyme. Puis on s'est rendu compte que même ça les exposait peut-être à trop de risques, des risques que personne n'avait envie de prendre. Et donc finalement, on n'est pas parvenu réellement à proposer d'idées alternatives.
Marie-Soleil Frère, directrice du Centre de recherche en information et communication de l'Université libre de Bruxelles.
Le référendum au Darfour, région troublée du Soudan, prend fin aujourd'hui. La représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés basée au Tchad suit avec beaucoup d'attention ce processus. Le point avec André Cote-Majingar.
Environ 300 000 réfugiés soudanais vivent sur le sol tchadien depuis 12 ans dans plusieurs camps situés à l'est du Tchad. En dehors de ce nombre pris en charge par l'OICR, il y a d'autres qui ne résident pas dans les camps. Ces réfugiés sont dans les zones semi-désertiques et dépendent entièrement de l'assistance humanitaire. Dans cette situation, l'OICR ne peut pas encourager la production comme dans le sud du Tchad avec les réfugiés centrafricains qui sont dans une zone écologiquement favorable à l'agriculture et aux activités génératrices de revenus. Pour le représentant du OICR au Tchad, de José Antonio Carandula, que ce référendum au Darfour puisse favoriser le retour des milliers de réfugiés dans leur pays d'origine.
C'est un référendum en premier lieu destiné à des questions politiques au niveau du Soudan. Donc c'est pour répondre à des préoccupations politiques qui ne sont pas nécessairement des questions liées à la situation particulière des réfugiés. Ça veut dire que c'est des situations humanitaires qui ne sont pas prises en compte dans le processus politique en cours. Nous observons seulement l'évolution de la situation pour voir quel serait l'impact de ce référendum sur la volonté ou non des populations réfugiées soudanaises au Tchad. Et ça nous intéresse parce qu'on a entendu parlait de certains mouvements spontanés de retour, mais pour lesquels nous n'avons aucune preuve que ce soit des retours durables.
Le représentant du SR au Tchad souligne par ailleurs qu'il faut passer de l'assistance humanitaire à l'autosuffisance alimentaire à travers les activités génératrices de revenus, mais aussi de trouver des solutions durables à tous les réfugiés vivant au Tchad.
Nous sommes devant un programme de longue durée. Et les intérêts des donateurs commencent à diminuer parce qu'il y a de nouvelles urgences. Le plus important défi, je pense, c'est du point de vue de trouver des solutions durables à ces situations de réfugiés. Quelle est en fait la solution durable? Il faut sortir de cette notion et de cette condition de réfugiés. Ce serait soit avoir un retour durable dans leur pays. Vous connaissez un peu la situation au Darfour, il y a encore les conflits. Et vous connaissez la situation en Centrafrique, le conflit est fini. Mais toujours est-il que les institutions de l'État ne sont pas encore étendues au nord de la Centrafrique, de là où ils viennent la majorité de nos réfugiés.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Tchad est le quatrième pays au monde à accueillir plus de réfugiés sur son sol. André Kodouma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la pré-scrutin présidentiel au Tchad. Un vote dans le calme, mais l'inquiétude gagne le pays. Dans l'attente des résultats déjà contestés, le Tchad se dirige-t-il vers une crise post-électorale? Que signifie pour le pays et la région un éventuel cinquième mandat d'Idriss Déby-Itno après 26 ans au pouvoir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
Cap sur le Togo. Le gouvernement a récemment annoncé la défiscalisation du matériel informatique, une mesure saluée par les auteurs du secteur numérique. Reportage de Kayi Lawson, notre correspondante à Lomé.
Le gouvernement togolais a annoncé la suppression des taxes douanières sur des terminaux et équipements informatiques. Emefak Pegba, auteur de la lettre ouverte.
L'objectif, c'est que le Togolais lambda ait au moins un matériel informatique. Ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, avec une bourse minimum.
L'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique se dit ravie car cette mesure couronne 10 ans de plaidoyer. Olivier Kouami, secrétaire général de Esthétique.
Ça va nous permettre de vulgariser réellement l'outil informatique. Ça va permettre à nos étudiants de pouvoir acquérir le matériel informatique à moindre coût. Une mesure qui va nous permettre justement aussi d'encourager nos jeunes créateurs à créer un peu plus de contenu numérique, qui devrait permettre donc de vite promouvoir les TIC pour le développement.
Dans son argumentaire, le gouvernement togolais dit vouloir régler le problème de la qualité des services Internet et d'assurer l'accessibilité des services de télécommunication à des prix remarquables à toutes les couches sociales. Pour certains spécialistes, il faut faire la démarcation entre la défiscalisation du matériel informatique et le coût de la connexion Internet. Jean-Marie Nwagbodi, directeur général de Café Informatique et Télécom, une société spécialisée dans le service Internet.
On parle d'équipement informatique, on n'a pas parlé des équipements réseau. Je pense qu'on va être limité aux ordinateurs, peut-être aux tablettes, mais si jamais le gouvernement veut aller vers les équipements réseau, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, dans la loi, il n'y a pas ça. Les deux n'ont pas de lien. Donc, on ne peut pas dire qu'on détaxe les ordinateurs, donc la connexion va devenir moins chère.
Pour cet ingénieur en informatique, un travail de régulation du marché s'impose pour que le consommateur final ne soit pas lésé. Nous écoutons Marie-Louise Tchohou.
Ça nous avantage dans le sens où le matériel sera moins cher, mais j'espère que le gouvernement va gérer ceux qui mettent à la disposition de nous le matériel pour que le prix soit uniforme.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagno a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Aiden Okto à la console, à la présentation John Lyndon et Morgan Guiriek.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité et chez vous. Suggérez des sujets et visitez notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.